Des bouts d'Apollinaire, deux fables, un sonnet de Hérédia, El Desdichado de Nerval, quelques vers de Mallarmé sur un marque-page gris, perforé d'une mouette et sur lequel j'ai longtemps gardé l'habitude d'archiver mes lectures en petits caractères, avec une délicate ironie adolescente. La chair est triste, hélas, et j'ai lu tous les livres. Fuir là-bas, fuir, je sens que des oiseaux sont ivres, d'être parmi l'écume infinie et les cieux. Et enfin, des fragments de Baudelaire qui décoraient les emballages d'une série limitée de sucre, à l'époque où je déjeunais encore au restaurant universitaire et où je sucrais encore mes cafés, comme monte au ciel les soleils rajeunis après s'être lavé au fond des mers profondes. C'est là à peu près tout ce que je suis capable de réciter de mémoire. La récitation est de toute façon pour moi quelque chose de profondément anxiogène depuis que j'ai lu ces histoires de déportés qui se récitaient le soir, les rares poèmes qu'ils connaissaient pour survivre à l'abjection des camps. Je me suis toujours confusément dit que c'était là le but dernier de la poésie, sa déprimante fonction. De nature optimiste, j'ai ainsi négligé d'en apprendre. À moins qu'il s'agisse plutôt d'une superstition bizarre, moins je connaissais de poésie, plus mes chances d'être un jour déporté diminuaient. Mon rapport à la poésie, comme je crois celui de tous mes compatriotes, voire celui de l'humanité entière depuis l'Iliade, est obscurément lié à l'expérience de la guerre, et il m'est ainsi toujours apparu comme une évidence cette idée qu'on utilise des vers de Verlaine pour annoncer le débarquement. Entre les violons de l'automne et les centaines de bateaux recouvrant l'horizon, j'ai toujours perçu quelque chose de l'ordre de la rime riche. De même, l'idée que les poètes de la résistance forment au sein de celle-ci comme une division autonome m'a toujours séduit, et j'ai vraiment cru à la métaphore de l'arme des mots. J'entends sans difficulté dans le moindre alexandrin d'Aragon les 12 coups de feu de simultané d'un peloton d'exécution. Je souscris sans mal à la vision d'Apollinaire sur la beauté paradoxale de la guerre, et j'aimerais connaître au moins quelques vers d'Éluard pour persifler mon bourreau. C'est ainsi, les poètes de la résistance forment notre dernière pléiade et secondent efficacement pour l'éternité le commando Kiefer, tandis que le Vercors nous tient lieu de Parnasse. J'ai connu l'époque, et je le dis comme si j'avais connu Homère, où des résistants venaient encore visiter les collèges et où il suffisait, pour avoir des 17 en philo, de mettre un peu partout dans les dissertations des majuscules à engagement et à désobéir. Le discours de Malraux pour la réception des cendres de Jean Moulin au Panthéon le disputait encore largement dans les soirées étudiantes arrosées au lac du Connemara de Sardou. Je n'ai pas été surpris, était-ce à Angoulême ou à Limoges, par ces énormes lettres de granit qui barraient un rond-point et qui formaient le mot sacré de mémoire. J'ai appris à décoder l'onomastique des rues, à identifier Guy Moquet et le colonel Fabian, à regarder se flétrir à des anneaux de bronze les petits bouquets accrochés au mur en hommage au FFI tombé pour la libération de Paris. J'ai même écrit un peu de cette légende en rédigeant pour Bertrand Delanoë les éléments de langage de son hommage à Brossolette. J'ai annonné à vélo mécaniquement le chant des partisans devant la petite stèle qui rend hommage à Georges Mendel dans la forêt de Fontainebleau. Je me suis posé enfin toutes les questions inévitables. Est-ce que j'aurais rejoint la résistance? Est-ce que j'aurais parlé sous la torture? Est-ce que j'aurais écrit de beaux poèmes, car avec le recul du temps, la guerre a pris, comme pour donner raison à Apollinaire, des airs d'Arcadie, une Arcadie pleine de bergers qui joueraient, plutôt que de la lyre ou du fifre, de la grenade et du fusil. C'est d'ailleurs, par-delà les villes aux trop attendues plaques bleues, au détour d'une route de campagne, à l'entrée d'un village, sur un plateau ingrat, que la résistance a sanctifié la terre, en donnant à un bosquet le nom d'un jeune homme fusillé, à un virage le nom de la jeune fille qu'on y retrouve gisant dans un fossé, et au paysage de la France, la forme inattendue d'un tableau de Poussin, avec ses villes qui rougeoient au loin et ses promeneurs qui décryptent un message sur une ancienne stèle. Et in Arcadia ego, moi aussi, la mort en Arcadie, je rôde.